France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Tous les mots ne se trouvent pas dans les dictionnaires. En tout cas, à une époque, certains mots du monde rural, des mots en voie de disparition, sinon disparus, eh bien non, on ne les trouvait pas. Par chance, ces mots sont tellement imagés ou poétiques, intrigants, voire mystérieux, qu'un chercheur s'était penché sur leur signification pour mieux les inviter dans son dictionnaire. Les mots obsolètes du monde rural, Tire ta langue, première diffusion sur France Culture le 20 février 1998.
Notre séance d'aujourd'hui est envouée à la célébration de la langue, dont nous partageons le souci avec tous les usagers du français dans le monde.
Alors avant Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois.
Oh, je suis au bout de la langue, ça m'énerve. C'est...
Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par François Connac.
À Montreuil, on dit ouais, il y a une courave. Ouais, c'est une courave, ouais.
Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde.
Mais que fait donc ce mec, un micro dans la main? Mais que fait-il donc? On ne peut plus l'arrêter. Mais ce n'est pas de sa faute, il s'est tiré.
Ce matin, une heure durant, nous allons poursuivre l'exploration des mots obsolètes entamée la semaine dernière. Après une réflexion sur l'obsolescence même, le documentaire de Françoise Esteb va, dans quelques minutes, nous mettre d'humeur comtadine. Ce sera une coulée inouïe dans quelques-uns des 45 000 mots du faramineux dictionnaire du monde rural, récemment publié par Marcel Lachiver, historien gorgé d'expressions paysannes. Puis, vers 11h15, nous reprendrons notre entretien avec Marianne Mulon sur les noms de lieux d'Île-de-France. Mais tout de suite, pour nous donner le la, voici la chronique de Philippe Barthelet.
O ubi campi. Le dictionnaire du monde rural de M. Lachiver est à coup sûr un monument. Ce travail d'une admirable piété rend incongru tout commentaire. L'admiration qu'il suscite ne va pas toutefois sans tristesse. Il nous fait ressouvenir malgré nous qu'un monument est aussi un tombeau. C'est pour mieux dire un cénotaphe, un tombeau vide, rempli de mots qui n'ont plus cours dans la réalité vivante. Ce minutieux inventaire d'un monde englouti est quasi sous nos yeux, deux générations à peine auront suffi pour le transformer en souvenir, appellerait la fameuse question du dandy visiteur de musée. Pourquoi tout ceci plutôt que rien ? Puisque rien, précisément, est ce qui reste sous le soleil pour solde de tout compte. Notre époque aime les musées d'un amour dévorant. C'est le seul moyen qu'elles connaissent d'apprivoiser la réalité, quand elle est morte, qu'elle devient docile aux étiquettes, qu'elle se tient tranquille, objet de vitrine et de fichiers. Un vieux paysan provençal d'avant la dernière guerre, à qui l'on faisait lire Hésiode, retrouvait chez les poètes grecs la description même de ses travaux et de ses jours, quasi inchangés depuis 30 siècles. L'intérêt d'un tel dictionnaire du monde rural est tout à l'opposé. Les mots n'y sont plus la confirmation de la réalité, mais son fantôme. Le livre a d'ailleurs pour sous-titre « Les mots du passé ». C'est un plaisir mélancolique auquel il nous invite à travers ces pages, où l'on croise le Voisinet ou chemin vicinal du Vendômois, le Piro, loi mâle de l'Ouest et son Piroton, les Rabasses ou grandes pluies comtoises, que l'on est heureux de voir en Ragasse chez Olivier de Serres, la Pipegale ou Brouette de Saint-Omer et le Cacolet, ce siège à dos de mulet pyrénéen qu'affectionnait Victor Hugo. On y retrouve aussi des proverbes où la vie quotidienne est prise sur le fait, cette amère comme chicotin par exemple, qui rappelle la terrible vertu initiatrice du suc de coloquinte dont les nourrices qui voulaient sevrer un enfant s'enduisaient les mamelons. Pour autant, cette nostalgie ne doit pas nous provoquer au contresens, celui de croire que ce monde rural et les mots qui le disaient avaient pour naturelle destination de finir en dictionnaire. L'époque n'empêche pas les sentiments. nous embaumons ce que nous avons détruit. Cela s'appelle la culture et c'est, après la religion, notre dernier opium.
Je t'emmènerai là où mûrissent les pommes sauvages. Avec mes ongles, je retirerai les châtaignes enfouies sous la terre. Si tu es vif, je t'apprendrai comment on attrape un lièvre au collet. Est-ce que tu aimes les noix, t'en cueilleras des pleins paniers. Quelquefois, je te rapporterai des jeunes corbeaux. Tu sais, hier, derrière l'enclos, j'ai trouvé un nid de merle avec 3 œufs.
Suivons Marcel Lachivert à la recherche d'un monde perdu, le monde rural de son enfance, disparu avec ses mots, ses traditions, ses objets, ses gestes, devenu aujourd'hui vocable inusité, recueilli dans les 1700 pages d'un dictionnaire.
Quand je pense par exemple à ce qu'était la façon de faire la moisson, jusqu'au 19e siècle, on a moissonné les blés, les céréales panifiables, c'est-à-dire le froment, le seigle et le métail. On les a moissonnés à la faucille, pas à la faux, à la faucille. Exactement la même faucille qu'au néolithique, où ils avaient, dans une corne de renne, planté des petits silex pour faire les dents, eh bien, on avait des faucilles à dents. On n'est pas à la télévision, mais je pourrais vous montrer la faucille à dents que j'ai encore, de mon grand-père, avec laquelle j'ai encore moissonné en 1946 pour détourer des pièces de terre qui étaient enclavées et où la machine ne pouvait pas passer. On moissonnait avec une petite faucille à dents qui avait des petites dents comme une scie à métaux. C'était léger, ça faisait 200 grammes. Un gamin de 12 ans pouvait manipuler cet instrument. Et on sciait les blés. On prenait une poignée de tiges dans une main et on sciait de l'autre. Et on posait la poignée par terre délicatement pour que le blé ne s'égrène pas. Et quand on avait ainsi fait un certain nombre de poignées, on pouvait faire une gerbe. Ce que les gens appellent maintenant souvent une botte. On n'a jamais dit une botte de céréales, on n'a jamais dit une botte de blé, c'est une gerbe de blé. La gerbe de blé donne une botte de paille et pas l'inverse. On les redressait dans les champs en tas, qu'on appelait les dizios, théoriquement parce qu'ils étaient faits de 10 gerbes. Ça rappelle le temps où l'Église levait la dîme. La dîme, c'est, comme le mot l'indique, dîme décimale, c'est 1/10. Mais en réalité, le taux de la dîme était variable suivant les régions. Il était souvent un petit peu inférieur à 1/10. C'était souvent de 1/12 ou 1/13. Ce qui fait que, étant enfant, je ne comprenais pas. On me disait, tu fais des tas de 12. Tu fais des dizios de 12. Et t'es-tu? Je disais, mais dizios, ça veut dire 10. On me disait, non, t'en mets 12. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et le décimateur, qui était donc un employé du curé, puisque c'est le curé qui levait la dîme, ou un établissement religieux, venait dîmer le champ. Et lever donc une gerbe par tas, c'était tout simple. Il suffisait de savoir combien il y avait de tas pour savoir combien il y avait de gerbes au total.
L'aube aussi, il faudra que tu t'habitues à l'entendre, avec tous ces bruits.
Marcel Lachivert, vous venez de publier aux éditions Fayard le dictionnaire du monde rural, les mots du passé. Alors, qui est une somme de travail absolument considérable, puisque ce dictionnaire est composé de 45 000 mots, dont 20 000 ne figurent dans aucun autre dictionnaire. Alors, c'est là l'œuvre de toute une vie. Vous avez commencé à collecter, parce que vous êtes un collectionneur de mots, vous avez commencé à collecter les mots du monde rural à l'âge de 13 ans.
Oui, c'était en 1947. C'était après avoir effectué beaucoup de travaux ruraux moi-même, en particulier pendant les vacances. Et c'est certainement parce que j'ai eu l'intuition qu'avec l'après-guerre, où on voyait déjà paraître les premiers tracteurs qui revenaient, parce qu'à nouveau les Américains en livraient avec le plan Marshall, j'ai eu l'impression que l'agriculture que je venais de connaître, et qu'avaient connue mes ancêtres, allait disparaître très très vite. Et c'est ça que j'ai voulu sauver de l'oubli. Je suis dans le fond un conservateur.
Vous êtes la mémoire du monde paysan et du savoir paysan.
J'essaie.
C'est vraiment un livre qui vous tient à cœur, c'est un peu le livre de votre vie, c'est une façon de renouer avec votre passé, puisque vous êtes petit-fils de paysan.
Oui, c'est une façon de renouer avec le passé, c'est une façon de sauver ce qui est déjà oublié, peut-être pas des plus anciens, mais ce qui est déjà oublié, c'est la façon de faire savoir comment on travaillait dans le passé, quels outils on utilisait, quels animaux on utilisait, pour quelles fonctions, de faire se souvenir de certains gestes, le geste du faucheur, le geste de celui qui bat sa faux sur l'enclumette. Tout cela, ça a besoin d'être sauvé, parce qu'on le voit encore sur les tableaux, mais il n'y a plus personne pour le dire. Alors, il y avait des gens qui avaient commencé avant moi, dans le fond, les romans champêtres du 19e siècle, que ce soit de Georges Sand, par exemple, ou même de Balzac, ont fait œuvre dans ce domaine, jusqu'à Maurice Genevoix, par exemple, à l'époque contemporaine. Maurice Genevoix nous a sauvé quantité de mots de la Sologne. C'est grâce à lui qu'on sait encore ce que c'est qu'un robolio et une rabouillère.
Et je me rappelle très bien des histoires, par exemple, de braconniers.
Maurice Genevoix.
Il braconnait aux lisières même du bourg. Dans les vignes, il y avait ce qu'on appelait des échalas, c'est-à-dire, ou des charniers. C'était des meules d'échalas pour soutenir les cèpes. Eh bien, c'était des refuges à lapins. Il y en avait presque dans chaque charnier, dans chaque échalas. Alors, tout cela... Moi, j'habitais à la Croix-de-Pierre. On appelait ça le quartier de la Croix-de-Pierre. Eh bien, là, c'était le quartier des meuniers et en partie des vignerons. De l'autre côté, il y avait un autre quartier qui s'appelait la Bonne Dame, qui avait même, voyez-vous, les vignerons de ce côté-là avaient leur chapelle et leur bannière de confrérie. Bon, ils avaient d'ailleurs, c'était des gens qui se mariaient beaucoup entre eux, il y avait des mariages consanguins. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 patronymes pour 800 habitants.
Ah.
Et on les différenciait avec des surnoms. Eh bien, déjà cela, c'était magnifique. Les uns s'appelaient beurre sec parce qu'il était peut-être un petit peu, enfin... Le beurre n'était pas très gras, un autre qui louchait un peu, on l'appelait trois-œil, un autre qui boitait, on l'appelait caoteux, et un autre qui avait la cuisse mince, on l'appelait gigofin, on n'en sortira pas, un autre qui fumait toujours sa petite pipe de plâtre, on l'appelait pipe fine, etc., etc. Un autre au profil chevalin, on l'appelait le chevaux, et puis d'autres s'appelaient, ils avaient fait campagne au Mexique, et bien voyez, ça suivait encore.
Le Mexicain,
etc., on n'en sortirait pas.
Mais alors ces 20 000 mots qui n'existent dans aucun autre dictionnaire, comment les avez-vous collectés ? Vous les avez trouvés où, ces mots ?
Alors ce sont les mots qui n'existent donc dans aucun des grands dictionnaires publiés depuis le XVIe siècle, pas plus dans le Grand Larousse du XIXe siècle que dans le Littré ou que dans les ouvrages du XXe siècle. Ce sont les mots qui existent dans les glossaires régionaux, des glossaires qui ont été élaborés généralement à la fin du siècle dernier, c'est la belle époque de l'érudition, 1870-1914, par des érudits locaux déjà d'un certain âge à l'époque, donc qui seraient beaucoup plus que centenaires aujourd'hui, et qui eux-mêmes avaient des attaches rurales, bien sûr, et qui avaient donc une mémoire par l'intermédiaire de leurs grands-parents qui remontait au début du XIXe siècle. Donc ils ont couché ces mots par écrit. On a par exemple un glossaire merveilleux qui est celui de l'Anjou. Il faut dire que c'est peut-être la plus belle langue de France, celle de l'Anjou. Et ces glossaires ont été aussi élaborés quelquefois par terre de textes d'archives. Nous avions là des vieux notaires qui avaient lu quantité de baux, de contrats, d'actes, de ventes, d'échanges, de partages. J'en ai lu aussi beaucoup, puisque étant historien, j'ai passé ma vie dans les archives. C'est-à-dire que je suis allé chercher autant que possible, soit dans l'interrogation orale quand j'ai voyagé en France, soit dans des textes manuscrits au hasard de mes travaux, tout ce qui pouvait ne pas exister dans les dictionnaires. Et j'en ai cherché le sens.
Mais quel a été le déclic lorsque vous aviez 13 ans ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez couché sur le papier votre premier mot ?
Systématiquement, j'avais ouvert des petits carnets dans lesquels je notais tous les mots que je ne connaissais pas, mais tous les mots indistinctement. C'est-à-dire que j'étais amené à noter aussi bien parafernal, hypothécaire, porphyrogénète, des mots qui ne m'ont guère servi par la suite. Mais j'en cherchais le sens dans mon petit Larousse, parce que nous avions tous un petit Larousse. Et puis très rapidement, Quand je suis devenu instituteur quelques années plus tard, je me suis rendu compte que chercher tous les mots que je ne connaissais pas, bah, ça revenait à recopier le dictionnaire. Donc c'était un peu vain et qu'il valait mieux que je m'occupe des mots qui me tenaient le plus à cœur, ceux de la campagne, ceux du monde rural en général, c'est-à-dire des mots que j'avais connus. Par exemple, je me souviens d'avoir noté à 13 ans un mot comme « métaille ». Je ne savais pas ce que c'était que du « métaille ». Personne ne sait plus aujourd'hui ce que c'est que du métaille. Tous les paysans de France et de Navarre, encore au siècle dernier, savaient ce qu'était du métaille. C'était un mélange de blé et de seigle qu'on semait en mélange, donc. Donc on récoltait des grains mélangés et on faisait avec du pain de farine mélangée. Le seigle est noir, le froment, le blé, est blanc. Donc ça donnait ce qu'on appelait le pain bi-blanc, puisqu'il tenait des deux couleurs. C'était le pain de l'homme de tous les jours, si vous voulez, le pain, pas du malheureux, mais le pain de l'homme de tous les jours.
Et la gaudriole est une des formes du métaille.
Alors, la gaudriole, c'est un métaille dans lequel on a rajouté de l'orge. Alors ça, c'est un mot que aucun dictionnaire, y compris de patois locaux, ne donne. Je l'ai trouvé vraiment par hasard. Ce qui est curieux, c'est qu'on a ressuscité le métaille aujourd'hui en hybridant le seigle et le froment.
On ne l'appelle plus métaille, on a inventé. Alors,
oui, les agronomes qui ont donc hybridé du blé avec du seigle, ou du seigle avec du blé, l'ont appelé tout bêtement triticale. C'est-à-dire qu'ils ont pris les deux racines latines, triticum c'est le froment, sécale c'est le seigle, ils ont coupé un bout de chaque mot et ils ont fait ainsi du triticale.
Pomme à cidre, poire d'oche, pomme de sabarotte, poire d'angoisse, pomme figue, poire de blanquette, pomme sans fleurs, poire de curé, pomme tapée, poire tapée, pomme boudée, poire de râteau, pomme d'amour, poire de terre, pomme de loup.
On trouve dans votre dictionnaire de très très beaux noms de fruits. On pourrait composer des poèmes avec les noms des fruits ou des légumes ou des plantes.
Oui. Ben, parce que les fruits principaux, bon, c'est la pomme et c'est la poire, bien sûr.
Vous pouvez nous en citer quelques-uns ?
Il y avait des pommes, par exemple, comme le châtaignier. Belle pomme de mon enfance, rouge, avec laquelle qu'on mangeait comme fruit cru, que l'on mangeait cuit au four surtout, que l'on enveloppait dans de la pâte pour faire ce qu'on appelait des douillons. Quand on met une pomme qu'on a pelée, qu'on a un peu épépinée par la base et le sommet, et qu'on l'enveloppe d'une petite couche de pâte, on la met cuire au four, on obtient ce qu'on appelle un douillon, c'est-à-dire une sorte de chausson aux pommes, mais ce n'est pas de la compote de pommes qui est dedans. Il y avait une poire, par exemple, qui s'appelait la poire de Carésie. La poire de Carésie, c'est une poire qui est un vrai étranglard, comme on disait encore, c'est-à-dire une poire qu'il est impossible de manger, tant elle prend à la gorge, tellement elle a de tanins, et elle n'était bonne qu'à faire du cidre et surtout de l'eau de vie quand on distillait.
Mais le gros musc aussi, qui est une poire d'hiver.
Oui, bien sûr, alors, à cause de sa saveur musquée. Mais vous savez, les pommes et les poires, c'est des fruits qu'on a tirés des forêts par greffage et par amélioration successive. Pensez qu'un jardinier comme Lincantini, qui était le jardinier Louis XIV, le créateur du potager du roi qui existe toujours à Versailles, cite déjà dans son dictionnaire d'arboriculture plus de 500 variétés de poires en 1690, c'est-à-dire il y a trois siècles.
J'ai appris que la zizanie, qui est un terme très courant, que l'on emploie vraiment dans le langage quotidien, que la zizanie était une mauvaise graine. Alors je comprends mieux maintenant l'expression « semer la zizanie ».
Oui, alors la zizanie, c'est le nom d'une plante qui a aussi un autre nom qui s'appelle l'ivraie. Alors, à cause du Nouveau Testament, où on a appris à séparer le bon grain de l'ivraie, on a surtout retenu le nom d'ivraie, mais en réalité, l'ivraie, c'est la graine de la zizanie. Les deux plantes sont interchangeables, mais on emploie surtout l'ivraie pour désigner la graine, ce qui fait que celui qui a semé la zizanie est ensuite obligé de séparer le bon grain de l'ivraie.
J'ai appris également que l'absentéisme était un mode d'exploitation de la terre.
Quand les propriétaires ne sont pas présents sur les fermes qu'ils font exploiter.
Voilà. L'abri fou, c'est joli comme nom. Il y a des termes qui sont très poétiques, qui étaient le voile tenu au-dessus de la tête des mariés pendant la bénédiction nuptiale. Oui. L'abri fou.
Oui. Et puis il y avait des termes poétiques comme le devantier. Quand une femme disait « je vais mettre mon devantier », c'était le tablier, c'est ce qu'on se met devant soi pour protéger ses habits. On appelait ça un devantier ou un devanteau. On appelait ça aussi un giron. Et on a gardé l'expression avoir quelqu'un, protéger quelqu'un dans son giron. Et le giron, c'était, quand on était assis, la portion du corps comprise entre la taille et le genou.
À Bourion, apoplexie de la vigne, Guinguet, Gournay, Grinsdent, Othello, Rikiki, Tatouille, Vadrouille, Vide bouteille, Pisse debout, Pisse vin, Piquette, Pissotte, Pitarnier, Vinade, Vinatier, Vinasse.
Voilà la grange où l'on fait le vin, où l'on amène la vendange. Et alors, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors voilà dans les javelles, ce qu'on appelle les javelles, ce sont les fagots de sarment. Voilà une javelle de curage. Avant de tailler, on enlève tous les faux bois. Voyez-vous, vous enlevez tous les faux bois. Et puis, si on peut le faire, si on a le temps, voyez-vous, tous les faux bois. Et alors, quand les faux bois sont enlevés, après, on taille la vigne. Alors voilà une javelle de taille. Une javelle de taille, tenez, voyez-vous, tout ça, ce sont des raisins. Quand la vigne est curée, la vigne se taille facilement, mais il faut avoir le temps de la curer. Alors, cette javelle-là, n'est-ce pas, elle sert, on s'en allume du feu, elle sert aussi à clarifier le vin quand on met le vin dans la cuve. Vous mettez le vin, le raisin dans la cuve, et alors, pour qu'il passe à travers la cannelle de cuivre que nous allons voir, là, alors, il faut qu'on mette quelque chose, n'est-ce pas, qui empêche. Alors on met ce qu'on appelle le paillon. Le paillon, ben c'est une gerbe de paille droite ou de seigle ou de blé. Il faut de la paille rude. Alors, il faut que je vous montre l'étine. Voilà l'étine qui sert à porter la vendange de la vigne à la cuve. Voilà, alors nous allons aller voir la cuve. Autrefois, n'est-ce pas, les gens portaient l'étine à la hotte et puis on jetait la vendange que l'on foulait au pied, hop, au seau dans la cuve. Alors voilà comment on appelle le trou de cuve, quoi.
Vin de cabaret, vin bourgeois, vin en cercle, vin de copeaux, vin de goutte, vin de mergoutte, vin de l'étrier, vin bourru, vin de pied, fleur de cuve, vin de presse, vin de cerneau, vin de teinte, vin teinturier, vin de liqueur, vin de passe, vin de dépense, vin de pauvre, vin de force, vin de chaudière.
Il y a beaucoup de noms, évidemment, de mots pour les vins. Alors, par exemple, le guinguet, moi, voilà, je sais maintenant d'où vient guinguette. Le guinguet, c'était un petit vin vert.
Oui. Alors, ce terme, on le voit apparaître au XVIe siècle. On n'en connaît pas bien l'origine. On le trouve sous la forme guinguet ou ginguet. Et l'origine qu'on donne le plus souvent, dès le XVIe siècle, c'est parce qu'il est tellement mauvais qu'il fait danser, il rend malade, il fait danser, il fait giguer. Voilà l'origine, comme les chèvres giguent. Les chèvres qui gambadent, on disait qu'elles giguaient. Et ça a donné, ça ce qui est certain, ça a donné son nom donc aux guinguettes, les établissements qui étaient situés hors des barrières fiscales de Paris. Et ces guinguettes vendaient ce vin un peu vert de la région parisienne, ce ginguet ou guinguet.
Alors moi je connaissais Piquette, Picrate, mais je ne connaissais pas Tatouille. La Tatouille, c'est le mauvais vin.
C'est du mauvais vin. Oui. Alors le mauvais vin, donc c'est la Piquette, puisque ce n'est pas fameux. On a gardé le terme. On l'appelait aussi la Buvande. On l'appelait quelquefois, à Lyon on dit de la Buvande. On l'appelait quelquefois l'arrière-vin, c'est-à-dire le vin que l'on fait après le vin, c'est-à-dire en repassant les mares dans de l'eau et en les pressant à nouveau. Il sort encore un liquide plus ou moins rosâtre, c'est ça. Et puis, ce mauvais vin, quelquefois, on l'appelait au XIXe siècle, on l'appelait du 19, parce que, disaient les gens, il est moins que vin.
Oui, donc il y a beaucoup de jeux de mots.
Beaucoup. On adore les jeux de mots. Oui. Le cordonnier, ou le savetier plutôt, qui réparait des chaussures, parce qu'à l'époque, le cordonnier fabrique les chaussures, ce qu'on appellerait un bottier aujourd'hui. Le savetier les réparait. C'est la fable, le savetier le financier de La Fontaine. Alors le savetier, quand il carrelait des chaussures, car ressemeler, ça se disait carreler des chaussures, disait « je vous ai fait un 18 » pour dire que vos souliers sont 2 fois 9. avec l'astuce, évidemment, à la clé. Mais c'était l'époque où, sans arrêt, on essayait de jouer sur les mots. Par exemple, on faisait des pèlerinages pour obtenir la guérison de certaines maladies.
Pèlerinages qui s'appelaient des voyages.
Des voyages, oui. On disait, il a fait un voyage à Saint-Michel, par exemple. Et il y avait, par exemple, des gens qui étaient atteints de la teigne, qui est une maladie grave, allaient dans une chapelle près d'Orléans, à la chapelle Saint-Aignan. Puisque Aignan, accolé à Saint, ça fait Saint-Aignan. Et le Saint-Aignan, il est fait pour les teigneux. De même que les gens qui étaient frappés de ce qu'on appelle les écrouelles, ce qu'est l'adénite tuberculeuse, et que le roi de France était censé guérir au moment du sacre à Reims, et puis l'opération était renouvelée tous les ans par les rois de France depuis le Moyen-Âge. Eh bien, c'était une maladie qui était guérie par Saint Marcou. Saint Marcou, qui est un saint de Normandie, et comme il s'appelait Marcou, il était réputé pour guérir les marques au cou. Les écrouelles étant des grosseurs, évidemment, qu'on avait au cou, puisque ce sont les ganglions qui gonflent. Et alors, ce Saint Marcou, qui guérissait les marques au cou, partageait son pouvoir avec certains enfants qu'on appelait aussi donc des Marcous, en en faisant un nom commun. Et qu'est-ce que c'était qu'un Marcou ? C'était le septième garçon d'une famille de sept garçons, sans qu'il y ait eu de fille entre-temps. On attribue un pouvoir surnaturel à cet enfant. Et je vous fais remarquer qu'il y a un enfant dans la littérature du XVIIe siècle qui a ce pouvoir, c'est le petit Poucet.
J'ai appris que Lustucru, puisque l'on parle des contes pour enfants et on connaît la chanson « La mère Michel qui a perdu son chat » et le père Lustucru qui va le retrouver, j'ai appris que Lustucru c'était un pauvre diable, un pauvre être, un personnage ridicule dans les campagnes.
Et on en a fait justement le nom d'une révolte à l'époque de Louis XIV, au début, dans les années 1660, une révolte du Boulonnais qu'on a appelée la révolte des Lustucru, comme on aurait dit la révolte des croquants, puisque le mot croquant était le mot qu'on appliquait avec mépris aux paysans.
Pierre Brugel.
Eh bien, vous voyez que nous sommes montés au Buron de Chanet. Dans le paysage, derrière nous, il y a le Puy Violent. Devant nous, là-bas, plus bas, la ville de Salers. On est là sur le plateau, dans le pâturage, bosselé de topinières maintenant. En avant du bâtiment, il y a les loges à cochons. Il y en a trois, avec le petit parc devant où on peut les enfermer. Et ces cochons buvaient le petit lait de la fabrication du Cantal. Et puis on les lâchait aussi dans la montagne et on les appelait au moment où on leur donnait à boire. On criait, il y avait un cri et les cochons savaient très bien qu'on criait et qu'il y avait du petit lait dans l'auge. Et ils rappliquaient, je vous garantis, il n'y avait pas à aller les chercher. Ils étaient lestes. On m'a même raconté qu'il y avait un vacher qui leur criait malicieusement « Loup dernier nest !»« Loup dernier nest !» Ce qui voulait dire « Le dernier n'en aura pas !» Et aucun des cochons ne voulait être le dernier, ils arrivaient tous pour boire le petit lait.
Alors j'ai appris que le Monseigneur, dans le Midi, était le chef des moissonneurs.
Oui, c'est le chef des moissonneurs. Ça peut être aussi un porc, car le porc était appelé Monseigneur. On l'appelait quelquefois noble. Et tout ça parce que, encore un jeu de mots, il était habillé de soie, puisque les poils du porc, c'est ce qu'on appelle de la soie, puisqu'on en fait des brosses en soie. Et le porc, donc, a ce nom. Mais je vous ferai remarquer au passage que ce terme de porc est un français très moderne. Dans le temps, on ne disait pas un porc, on disait un lard. On disait « j'ai trois lards dans mon écurie ». Ça veut dire « trois cochons ». Et on disait qu'on allait tuer le lard. En Normandie, encore actuellement, vous allez chez le charcutier et vous achetez un rôti de lard. Le lard, c'est la viande de porc. Pour désigner ce que nous appelons, nous, le lard, il y avait le bacon. Les Anglais nous l'ont pris. Ils l'ont mis avec des œufs même. Ils en ont fait leur petit déjeuner. Mais chez nous, c'était le bacon. Et quand on faisait fondre la graisse du lard, c'est-à-dire la graisse du porc, la graisse qui est sous le ventre, on fabriquait ce qu'on appelait du sein, S-A-I-N, ce que nous appelons, nous, du sein doux. On en trouve encore dans le commerce. Et c'était la graisse qui servait, dans la majeure partie de la France, sauf dans les pays à huile d'olive, évidemment, c'était la graisse qui servait à faire frire. Mais voilà des mots qui sont toujours au besoin employés, je répète, en Normandie, on dit toujours un rôti de lard, une côte de lard. Alors là, encore quelque chose de savoureux. Toutes les viandes, jadis, étaient consommées à partir d'animaux déjà âgés, parce qu'on les nourrissait moins qu'aujourd'hui. Souvent, ils en étaient réduits à trouver leur pâture dans les friches, dans les landes, sur le bord des chemins. Ce qui fait qu'on n'avait pas, puisqu'en plus on voulait des animaux assez gros, pour les porcs, il fallait qu'ils aient beaucoup de bacon, beaucoup de lard, donc. Donc on les tuait souvent quand ils avaient passé une année. Et le porc qui avait passé une année s'appelait un porc suranné, puisqu'il avait passé, il était au-delà d'un an, c'était le porc de l'année dernière, et le mouton, qui était aussi âgé de plus d'un an, était dit un antenois, maintenant on dit un antenais, parce que c'est comme le rouet et le roi, si vous voulez, mais il était aussi de anteanum, c'est-à-dire de l'année précédente, de l'année antécédente, et voilà comment on les appelait. Et le porc, qui était un animal qu'on n'avait pas en batterie comme aujourd'hui, enfermé dans une cage, le porc qui courait dans la cour s'appelait un porc couratier. C'était joli, c'était l'époque où les brebis s'appelaient encore des brebales ou des ouailles. Le prêtre lui dit toujours qu'il va s'occuper de ses ouailles, mais l'ouaille, c'est la brebis. Le petit agneau était l'agnelin, évidemment. Et tous ces mots avaient des féminins, il y avait l'agnel et l'agnelin, de même que chez les bovins, il y avait la velle et le veau, il y avait la génisse et le génisson. Nous conservons, nous, le veau, on achète de la viande de veau, c'est le nom de la viande et c'est le nom de la bête. Nous parlons de génisse encore quand un paysan dit qu'il va faire saillir sa génisse, à ce moment-là elle deviendra une vache, bien sûr. Mais nous avons perdu le masculin et le féminin de ces deux mots. Nous ne disons plus une velle pour dire un petit veau femelle, ce qui est quand même curieux parce qu'il y a autant de veaux femelles que de veaux mâles. Donc on disait une velle.
Et ce sont des termes qui sont très imagés, qui ont un très grand pouvoir d'évocation.
Bien sûr, toujours les mots sont très évocateurs. Et ils font toujours appel, par exemple, les bœufs qu'on avait dans les étables, parce que dans le temps, il n'y avait pas d'écurie, il n'y avait que des étables. Le Moyen-Âge ne connaissait pas le mot écurie. Étable, ça désignait à la fois le local qui renfermait les vaches, les veaux, les bœufs et les chevaux. La preuve, c'est que le grand serviteur du roi de France qui avait soin de ses chevaux s'appelait le comte de l'étable, le connétable. Le connétable, il est le comte de l'étable, il n'est pas le comte de l'écurie. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle qu'on voit se profiler vraiment le mot écurie pour désigner l'endroit où on met les chevaux.
Dans un buron à cette altitude, on n'avait pas de grands moyens, on n'avait pas de presse à vis ou de presse hydraulique comme aujourd'hui. Il fallait presser l'atome, il fallait presser le fromage. Alors pour presser le fromage, il y avait de grosses pierres qu'on déplaçait. Et pour presser l'atome, c'est le vacher qui s'agenouillait sur une grande surface montée sur des pieds qui permettait de recueillir le petit lait qui s'appelait la selle. Il montait là, il retroussait le pantalon et il serrait la tome, le fromage, la boule de tome entre ses cuisses. Et alors les voyageurs de l'époque commençaient à dire « Vous vous rendez compte, quelle fabrication ?» Et naïvement, le vacher répondait comme il répondait à l'époque « Mais comment voulez-vous que mes genoux soient sales? Ils sont lavés deux fois par jour dans le petit lait !» N'est-ce pas ? Et voilà, il a fallu passer à une première presse qui s'appelait la Cachaire. Il y a eu des ingénieurs agronomes qui ont proposé différentes presses, des presses en bois relativement simples à faire, pas très lourdes, qu'on pouvait monter jusqu'au buron. Et ça a été la fin du pressage, du genouillage, comme on disait là-bas vers Aurillac, ou comme disaient les guides pour les touristes, du genouillage.
Bien entendu, dans ce dictionnaire du monde rural, on ne trouve pas de mots abstraits.
Il n'y en a pas, bien sûr. Le paysan ne se lance pas dans des concepts compliqués. Oui. Le paysan n'a pas beaucoup de problèmes de conscience. Il ne s'occupe pas de l'immortalité de l'âme. Il croit ce que lui dit son curé et puis il fait ses Pâques et, les rameaux, c'est tout. D'ailleurs, sur Pâques et rameaux, il a construit une belle expression pour désigner une fille qui est enceinte avant d'être mariée. On dit à la campagne, elle a fait Pâques avant les rameaux. Mais il n'y a que des mots concrets. Le paysan, il a les pieds dans la terre, et même quelquefois pire que la terre. Il est accaparé par la nécessité de produire des grains pour manger, pour faire son pain. La sueur et le pain, il sait ce que c'est. Il est bien en accord complet avec l'évangile qu'on lui enseigne à l'église.
Mais il a un très grand sens de la poésie, par contre.
Oui, les mots sont jolis. Il y a des mots qui sonnent bien, même s'ils ne désignent pas toujours de belles choses. Moi, j'aime le mot mercurial, par exemple. C'est un beau mot, mercurial. Alors, c'est un terme de justice. Bon, passons ici. C'est une admonestation en termes de justice. Mais la mercurial, c'est une plante, la mercurialis annuelle des Romains. Et une plante qui a des vertus laxatives importantes. La preuve, c'est que dans ma jeunesse, on ne m'a jamais dit que c'est de la mercuriale. Ça, je l'ai appris quand j'ai fait de la botanique. On m'a dit que c'est de la foirole. Et il ne faut pas mettre de foirole dans l'herbe quand tu vas faire de l'herbe pour les lapins, parce que ça donne la foire, donc, et le terme est imagé, aux bêtes. Et puis c'est aussi, le paysan le savait, le registre d'appréciation des grains qu'on remplissait après chaque marché. Un homme qui avait prêté serment donc remplissait ce registre, il était juré. Et il notait le prix auquel s'étaient vendus les différents grains, parce que dans ce registre, ainsi fait, on pouvait aller ensuite puiser la preuve pour faire le paiement des baux de fermage. Quand les baux étaient spécifiés en nature ou en argent, si on voulait les convertir, on savait que si on devait, par exemple, 3 sautiers de froment, le sautier de froment ayant coûté tant à telle date, qui est la date du bail, eh bien on doit 3 fois cette somme au propriétaire.
Alors, j'ai lu que vous aviez consulté les mercuriales de canton. Alors, c'était ces registres-là, précisément?
Dans toutes les petites villes, dans tout ce qu'on appelle maintenant les chefs-lieux de canton, oui, les bourgs-marchés, que vous alliez à Ussel, en Corrèze, ou que vous alliez à Ambert, dans le Puy-de-Dôme, tous ces bourgs, qui étaient des bourgs-marchés, avaient donc des marchés au grain qui se tenaient à jour fixe, 1 ou 2 fois par semaine. Et les paysans apportaient là le blé que les boulangers achetaient pour faire le pain, mais que surtout les particuliers qui n'avaient pas de terre achetaient pour faire leur pain. C'est l'époque où on faisait son pain. Parce que le boulanger, dans le temps, c'était seulement un homme qui cuisait. Quand il disait « je vais faire une cuite », ça voulait dire « je vais faire une fournée ». Et il s'appelait quelquefois même le « fournial ». Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Fournial en Auvergne. Ça voulait dire que c'était l'homme qui était chargé de cuire. Alors si c'était un homme privé, c'est parce qu'il avait un four chez lui. Il était ce qu'on appelle nous un boulanger. Si c'était le four communal, le four seigneurial, le four banal, comme on disait, puisqu'on payait une banalité, c'est-à-dire une redevance, le fournial était l'homme du four banal. Et puis comme ça, donc régulièrement, on allait porter ces tourtes ou ces miches au four banal. On les avait marqués à sa marque pour les reconnaître après la cuisson. Et on en abandonnait 1 sur 20 au fournier. C'était au fournial, c'était son salaire, évidemment, c'était la redevance qu'on lui devait, parce que c'est lui qui fournissait le bois, qui faisait le travail de la cuite. Et on appelait ça une cuite.
On mettait trempé le linge, on l'a changé, on mettait des cristaux qu'on avait dedans. Des choses que n'importe qui, ça ne peut pas tout être.
Au revers des maisons, on retrouvait encore une activité chaleureuse, c'est-à-dire qu'il y avait des places herbues où sur un grand tronc d'un arbre énorme, un peuplier ou un chêne, eh bien les sieurs de long étaient montés et on les voyait au travail. Alors l'un debout sur le tronc, l'autre à terre et maniant la grande scie à lame droite, dans une giclure de sciure, le chant, le ronronnement de la scie et ses gerbes de sciure blondes qui jaillissaient. Un peu plus loin, c'était le cordier qui tendait ses cordes et qui les roulait. Oh, vous n'avez pas vu ça, je ne peux pas vous raconter ça en détail. Mais enfin, il tordait ses brins de cordes, allant et venant, n'est-ce pas, comme un ouvrier au travail, etc. Et d'un bout à l'autre, c'était ainsi. Et il y avait aussi... Alors, je parlais des chevaux tout à l'heure à propos de notre maison à nous, mais tout le bourg était animé de chevaux. Il y avait le marché tous les vendredis, et alors ça provoquait vraiment une sorte de cavalcade extraordinaire. Par toutes les routes convergeaient les carrioles des paysans. Alors les fers des chevaux claquaient sur les silex dans des gerbes d'étincelles. Et toutes les maisons du bourg dont je vous parlais, du côté des petits sentiers, avaient ce qu'on appelait des cas, c'est-à-dire des boxes pour les chevaux du marché. Je me rappelle sur le trottoir, il y avait un maréchal, il ferrait sur le trottoir, le maréchal Ferrand. Et moi, je passais entre les pattes des percherons.
Et vous avez connu les forgerons?
Mais voyons, bien sûr.
Et les charrons.
Vous savez, voir forger une pièce de fer, un soc de charrue, et voir la matière devenir ductile et prendre forme sous les coups de la masse énorme du forgeron, c'était très exaltant. Ou simplement, vous n'avez jamais vu cercler une roue, ni jabler un fût. Eh bien, j'ai vu ça chez les tonneliers. Et l'habileté manuelle de ces gens-là, avec de quoi émerveiller n'importe quel enfant.
On apprend par votre dictionnaire également l'origine de certains noms de famille.
Oui, alors ça, il est évident que la profession a servi à désigner les individus à partir du moment, ça commence au XIe siècle, où les prénoms n'ont plus suffi. Dans le temps, on n'avait qu'un prénom. D'ailleurs, je fais remarquer qu'en anglais, le nom de famille s'appelle un prénom, je veux dire. Donc, on s'appelait Jean ou Jacques ou Michel. Et puis très rapidement, il y avait tellement de Jean, de Jacques ou de Michel dans la paroisse qu'on leur a donné des surnoms. Alors il y avait celui qui était grand, celui qui était petit, celui qui était beau, celui qui était laid, celui qui était jeune, celui qui était vieux. C'est comme ça qu'on a des le grand, des le petit, etc. Non. Et puis les métiers, évidemment, servaient à désigner. Dans chaque village, il y avait un fèvre. C'est le faber latin. Le fèvre, c'est le forgeron. C'est celui qui manie le fer et le feu. C'est un homme qui a un grand prestige. Et ce fèvre, il a donné donc des gens qui s'appellent fèvre, mais surtout le fèvre, dont on a fait quelquefois le fébure en déformant le V, parce que en temps c'était le fèvre avec un BV, évidemment. Donc, on a tous les gens qui s'appellent comme cela. On avait les gens qui étaient donc les charpentiers. Alors, il y a des gens qui s'appellent charpentiers. Il y a celui qui était le tailleur d'habits. Dans le Midi, on disait le Sartre. Alors, on s'appelle Sartre, comme Jean-Paul Sartre. Il y a celui qui ramassait les essaims d'abeilles sauvages dans les forêts. C'était un employé seigneurial, puisque ces essaims appartenaient au seigneur, comme toute la forêt. Et il s'appelait le Bigre. Alors, il y a des gens qui s'appellent le Bigre. Il y a, je parlais tout à l'heure du Fournial, qui était chargé de cuire le pain. Il s'appelait Fournial, donc on lui a donné son nom. Il y a des boulangers de la même façon. Mais je vous ferai remarquer qu'à la campagne, personne ne s'appelle paysan. Tout le monde l'est. Personne ne peut s'appeler paysan. Par contre, il s'appelle d'un nom caractéristique d'une variété de paysans. Quand on n'en a que un ou deux exemplaires dans la paroisse, on peut leur donner. C'est comme ça que vous avez des gens qui peuvent s'appeler Bordier, par exemple, ou qui s'appellent Sausson ou Soisson. Nous avons un ministre qui s'est appelé Soisson.
Oui, oui.
Ben, ça ne vient pas de la ville. Le Sausson, c'est celui qui n'avait qu'un cheval. Et comme pour labourer, il faut deux chevaux, il était obligé de s'associer, le latin socinus, avec un autre paysan de la même condition que lui. À eux deux, ils faisaient un attelage. Donc, on labourait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, bien sûr. C'était un échange de services. Mais le Sausson, c'est celui qui est donc obligé de s'associer. Et il y a des gens qui s'appellent Sausson ou Soisson, car il y a des régions où on disait Soisson.
Et quelle est l'origine de votre nom, Marcel Lachiver?
En breton, ça veut dire « le finisseur ». L'acheveur, si vous voulez.
Alors vous qui avez commencé à collecter votre premier mot à l'âge de 13 ans et qui en avez collecté 40 000, on peut dire que vous avez fait honneur à votre nom.
Ben, j'ai essayé de terminer. Ce n'est jamais fini, mais enfin, il y a bien un jour où il faut publier, ce qui ne veut pas dire qu'une édition ultérieure ne pourrait pas accepter d'autres termes encore. Mais enfin, l'essentiel est fait quand même.
Rue du Pas de la Mule, rue du Sentier, rue du Chemin Vert, rue des Fonds Verts, rue des Gâtines, rue du Bocage, rue des Pâtures, rue Perchamp, rue des Petits Champs, rue des Grands Champs, rue du Pré au Clair, rue des Jardiniers, rue des Maraîchers, rue des Faucheurs, rue des Cultures.
Les mots obsolètes par Françoise Estève, avec Marcel Lachiver, Pierre Brugel et la voix de Maurice Genevoix. Le dictionnaire du monde rural de Marcel Lachiver est édité chez Fayard. Texte lu par Annick Anselme et Blandine Molinier. Document INA, après-midi de France Culture et les Feux de la Rampe. Extrait du film Padre Padrone de Paolo et Vittorio Taviani. Enregistrement Dissenot, mixage Pierre Laya, Jean-Marc Potry, réalisation François Connac.
Quittons Marcel Lachiver pour revenir à Marianne Mulon, archiviste paléographe, auteure de Noms de lieux d'Île-de-France, avec qui, vendredi dernier, 13 février, nous avons essayé de voir comment s'étaient formés par couches successives ces noms de lieux d'Île-de-France. Votre livre est édité aux éditions Bonneton, Marianne Mulon. Et aujourd'hui, avec vous, on va essayer d'être un peu descriptif, d'envisager ce vocabulaire toponymique. Vous aviez, la semaine dernière, parlé des cours d'eau, de la Seine, de la Marne, mais justement, il y a des noms extraordinaires concernant l'eau en Île-de-France. D'abord, les sources et les fontaines.
Les sources et les fontaines. Il faut dire que l'eau, je l'ai déjà dit, a une importance primordiale dans la vie humaine. Et tous les vocabulaires nous ont apporté des noms de cours d'eau, bien sûr, mais des noms de sources et fontaines. Quand on voit un nom comme Sailly, ça fait partie de ces innombrables noms en Y, en Île-de-France, en Y, qui sont issus d'une formation avec le radical Akos, Akos, qui est d'origine celtique et qui exprimait une notion d'appartenance. Vous voyez, exactement comme actuellement, le suffixe hier peut s'accoler à un nom commun ou à un nom propre. On peut dire la Cressonnière, c'est l'endroit où il y a du cresson, ou la Durandière, c'est là où habite Durand. Eh bien, le radical Akos avait la même fonction. Et quand on voit Sailly, où naît un rue, on a tendance à penser que c'est un Saliakus, c'est-à-dire un endroit où a surgi ou a sailli un cours d'eau. Alors ça, c'est très discuté, là aussi. Vous savez, on est plein de discussions et d'incertitudes en toponymie, parce que tous ces noms en Akos, dont j'ai parlé, ou Akus, souvent, et c'est commode, on y voit un nom de personne. C'est très commode. Mais c'est peut-être un peu trop commode.
Et Bagneux, qu'est-ce que ça peut évoquer ?
Alors, Bagneux. Bagneux, naturellement, c'est lié au latin balneolum, qui est en rapport avec l'idée de bain. Seulement, Bagneux, par exemple, au sud de Paris, il n'y a jamais eu de terme d'établissement de bain, etc. C'est Michel Roblin, je crois, qui dit, mais il n'y a pas à chercher des termes ou quoi que ce soit, c'est un endroit qui était très, très humide, très, très spongieux, et c'est un endroit où les bestiaux venaient tremper leurs pattes, c'était marécageux.
Alors, ces noms de lieux d'Île-de-France, Marianne Mulon, sont évidemment essentiellement marqués par le relief, mais en même temps, on apprenait en géographie ce qu'est le bassin parisien, et c'est un relief tout de même limité.
Oui, on ne peut pas dire qu'il y a des gigantesques montagnes en Île-de-France. Aussi,
Des monts et des vallées. Hein,
voilà, il y a des monts, des vallées, il y a des buttes, il y a quand même tout un vocabulaire que nous reconnaissons encore à peu près, vous savez, qui est surtout reconnaissable dans la microtoponymie cadastrale. Parce que en dehors des noms de communes du genre Montmagny ou Montmorency ou Orsemont, etc., où on reconnaît bien le mont, On ne peut pas dire que le relief se marque d'une façon extraordinaire.
Et vous citez un nom difficile à interpréter, Nel, N-E-S-L-E-S.
Oui, je sais bien. On a dit, mais là encore, c'est sous toute réserve, que c'était un nom d'origine germanique, parce que l'apport germanique est important dans la toponymie. On a dit que c'était un Niviala, peut-être, qui exprimait quelque chose de bas. Et les Nels sont toujours en situation de contrebas ou en vallée.
Autre fait marquant, ce sont bien entendu les végétaux. Alors là.
Alors les végétaux, c'est de tous les temps. Déjà chez les Latins, il y avait un suffixe à tout faire, qui c'est le suffixe etum, qui a donné e ou oua en toponymie. Alors tous les végétaux y passent. L'aune avec aunois ou aunais, la châtaigne avec châtenais, châtenois, le chêne avec chêne, chêne. Et vous remarquerez que ce suffixe e, etum, est utilisé en toponymie au masculin, mais qu'il n'a survécu dans la langue courante qu'au féminin. C'est-à-dire que pour expliquer le chênais, je suis obligée de dire c'est la chênais. Mmh. Alors les végétaux sont évidemment non seulement formés, ils sont généralement formés avec des suffixes hein, pour exprimer une notion de collectivité. Alors on a ce fameux suffixe etum, on a aussi le suffixe hier qui provient du latin aria, on a omblière qui est un endroit où poussait le houblon, on a toutes sortes de végétaux qui survivent dans ce genre de formation.
Et on a également, dans ces noms de lieux d'Île-de-France, parfois ces noms sont marqués par l'absence de végétaux, c'est-à-dire les friches. En définitive, aujourd'hui, les gens seraient très étonnés, on le comprend mieux dans les campagnes, mais dans n'importe quelle banlieue, parfois il se trouve que ces friches ont donné lieu à une
La notion de friche est importante, et elle intéresse aussi d'ailleurs les géographes, parce que qui dit friche dit défrichement. Donc forêt plus ancienne, et la toponymie du défrichement est très importante. Les essarts, naturellement, les essartages, donnent lieu, s'ils ne sont pas cultivés, à des friches. Alors on a des brosses, par exemple, des broussailles. Au parc de Saint-Cloud, il y a un endroit qui s'appelle La Brosse, qui est actuellement en plein parc de Saint-Cloud, mais ça a été un lieu plein de broussailles.
Alors, outre les végétaux, il y a les animaux. Alors là, c'est pareil.
Alors, les animaux, il y a tout un folklore des animaux, bien sûr. Il y a tous les noms qui commencent par chante, parce que les animaux chantent. Alors ça, c'est aussi un sujet de discorde entre les toponymistes, parce que, bon, quand vous voyez Chanteloup, bon, on peut penser que c'est bien l'endroit où les chasseurs savent que le loup chante. Vous voyez Chantepie, bon, c'est un endroit où les oiseaux chantent, mais vous avez des chantes-coucou, des chantes-alouettes, vous en avez beaucoup. Tellement qu'on finit par se dire, mais est-ce que vraiment tout ça, ce sont des animaux qui chantent? Et alors, selon certains toponymistes, ce chante, en réalité, n'est pas le verbe chanter, mais est un très ancien mot d'origine probablement pré-celtique, qui est cant, qui exprime une idée de pierre, parce que vous avez des chantes quelque chose, ou des cantes dans le midi quelque chose, où on ne voit vraiment pas que l'animal ait pu venir chanter. Alors vous avez aussi des bêtes qui pissent, vous avez des pisse-loups, etc. Et je me suis amusée à poser dans mon petit livre la question « Les coqs pissent-ils ?» parce que vous avez une localité qui s'appelle Piscop, et qui a été du XIIe au XIVe siècle, je crois, notée Piscoque.
Et alors, à part les coqs, bon, on entend parler des renards quand on regarde ces noms de lieux, Goupil, etc. Alors, il y a un animal dont on trouve la trace. Parlez-nous un peu de... C'est un nom qui avait donné lieu à une rue à Paris, dans le 5e arrondissement, où habitait l'ancien président de la République. Parlez-nous de la Bièvre.
Ah, la Bièvre. Oui, alors la Bièvre, c'est en rapport avec le castor.
Voilà.
Alors, bien
un,
entendu...
Un nom peut-être celtique, hein, genre bébé.
Ah oui, bébé, c'est un mot celtique. Mmh. C'est un mot celtique. Et naturellement, on trouve comme nom de cours d'eau un nom en rapport avec le castor, puisque le castor était une bête qui vivait dans l'eau. Je dis bien qu'il vivait parce que je crois qu'il ne doit plus y avoir beaucoup de castors en Île-de-France. Mais il reste beaucoup de rivières à castors, comme la Bièvre, comme le Beuvron, comme il y en a dans toute la France. La Biberonne et la Beuvronne en Seine-et-Marne, tout ça, ce sont des rivières à castors. Mmh. Et puis alors, les localités qui étaient situées sur ces Bièvres, sur ces cours d'eau, peuvent s'appeler Bièvre.
Et donc, Marianne Mulot, on pourrait terminer cette évocation des noms de lieux en Île-de-France par les lieux marqués par l'activité humaine. Ça va du moulin à la forteresse, par exemple, à la Ferté-sous-Jouarre.
Ah oui, les gens se sont mis chez eux et dans les périodes d'insécurité qui ont été plus fréquentes que les périodes de calme et de paix, ils se sont barricadés. D'où, comme vous venez de le dire, les Fertés, qui sont des firmitates, des endroits solidifiés. Des tas, des Fertés avec le nom du possesseur qui suit, la Ferté Allée, la Ferté, etc., etc. Vous avez des Plessis. Alors le Plessis, c'était un mot formé avec le latin ou le balatin plectare, c'est-à-dire entrelacé des branchages. Alors on fabriquait des haies avec des branchages entrelacés, des branchages qui devaient être piquants. Hein. Ça ne devait pas être forcément facile à franchir. Alors, des Plessis, c'est pareil, vous en avez le Plessis pâté, le Plessis ceci, cela. Alors, vous retrouvez, vous pourriez faire finalement une espèce d'annuaire avec tous les noms des seigneurs propriétaires en prenant tous les Plessis, toutes les Fertés et quelques autres. Le château, la roche Guyon, c'est la roche de Monsieur Guyon, etc.
Mais alors, pour terminer, cette sorte de jeu de saut de mouton à travers les appellations de l'Île-de-France, avec vous, Marianne Mulot, on pourrait parler des lieux marqués par la dernière demeure, le cimetière.
Ah oui, ben, le fait est que les nécropoles, il y en a eu dans tous les temps, dans tous les lieux, et généralement, le cimetière était autour de l'église dans le temps jadis, et le cimetière a pu s'appeler le martroi, c'est-à-dire l'endroit où étaient les martyrs. On mettait les martyrs, on les enterrait dans un endroit défini. Puis autour de ces martyrs, on mettait les morts. Ils étaient bien tous ensemble. Donc le martyr est devenu le martroi. Le martroi est devenu le nom du cimetière, une désignation du cimetière. Comment on enterrait les gens autour des églises? Eh bien, vous avez dans toutes les villes, dans beaucoup de villes, une place du martroi, où il n'y a plus de cimetière depuis longtemps, mais qui est souvent près de l'église.
Du temps que le cimetière était au centre de la ville, comme la mort était au centre de la vie, pour reprendre une expression d'un historien des temps modernes. En tout cas, merci beaucoup, Marianne Mulot. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Nom de lieu d'Île-de-France » aux éditions Bonneton.
J'ai des tombeaux en abondance, des sépultures à discrétion. Dans tout cimetière, quelque importance, j'ai ma petite concession. De l'humble tertre au mausolée, avec toujours quelqu'un dedans. J'ai des petites bosses plein les allées, et je suis triste cependant, car je n'en ai pas.
C'était Tire-Talang par Antoine Perrault, réalisation François Connac.
Du Montparnasse à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. J'en possède au Père Lachaise, à Bagneux, à Thiers, à Pantin, et jusque ne vous en déplaise, au fond du cimetière marin. À la ville, comme à la campagne, partout où l'on peut faire un trou, j'ai même des tons beaux en Espagne, qu'on me jalouse peu ou prou. Mais je n'en ai pas la moindre trace, le plus humble petit soupçon. Au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. Le jour des morts, je cours, je vole, je vais infatigablement de nécropole en nécropole, de pierre tombale en monument. On m'entrevoit sous une couronne d'immortels à Champéret. Un peu plus tard, c'est à Charonne qu'on m'aperçoit sous un cyprès. Mais seul un fourbe aura l'audace de dire je l'ai vu à l'horizon du cimetière du Montparnasse, à quatre pas de sa maison, à quatre pas de sa maison. Devant le château de ma grand-tante, la marquise de Carabas, ma sainte famille, languide d'attente, mourra-t-elle, mourra-t-elle pas? L'un veut son or, l'autre ses meubles, qui ses bijoux, qui ses bibelots, qui ses forêts, qui ses immeubles, qui ses tapis, qui ses tableaux.
Le documentaire « Les mots obsolètes du monde rural » était signé Françoise Esteb. Le dictionnaire du monde rural de Marcel Lachivet est publié chez Fayard. C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par François Connac, diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 février 1998. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».